RFI, 6h30 à Paris et Kinshasa, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. L'armée congolaise revendique des prises dans le nord Kivu, combat toujours acharné dans l'est de la RDC, alors que les négociations sur un cessez-le-feu patinent. Point complet sur la situation sécuritaire et diplomatique en début de journal. La nuit gabonaise retrouve des couleurs ce week-end. Le couvre-feu instauré il y a un an et demi provisoirement levé en raison des fêtes de fin d'année. Reportage à suivre dans les rues de nouveau animées de Libreville. Il n'y a pas de troupes françaises au Nigeria. Réponse d'Abuja après les accusations portées par le voisin nigérien cette semaine. Les relations entre les deux États toujours tendues depuis le coup d'État de juillet 2023. Et puis suite et fin des éliminatoires pour le CHAN 2025 ce dimanche. Bonne opération pour l'Angola et Madagascar. La RDC cale face au Tchad. Résultats et matchs à venir à retrouver dans le journal des sports dans un peu plus de 10 minutes. En République démocratique du Congo, c'est le point névralgique sur lequel se concentre une bonne part des combats entre le M23 et l'armée. La route nationale numéro 2 est l'axe qui relie les deux principales villes de la province du Nord Kivu, Goma et Butembo. Au-delà de cette RN2 permet de rejoindre Beni puis l'Ituri et donc aussi l'Ouganda. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda y avancent depuis plusieurs semaines. Vincent Dublanche, de nouveaux combats ont été signalés hier.
Les villages de Kanyambi et de Mombasa en étaient le théâtre. Les sources que nous avons jointes parlent de violents affrontements, avec toujours d'un côté le M23 accompagné sur le terrain, selon les experts de l'ONU, par des unités de l'armée rwandaise. En face, l'armée congolaise et ses milices supplétives, baptisées Wazalendo, patriotes en Swahili. Selon nos sources, l'armée, les FARDC, ont repoussé le M23 à Kanyambi et repris la localité de Mambasa sur cet axe de la route nationale 2. D'autres affrontements hier ont été enregistrés à Kamandi-Jit et Kamandi-Lac. Nous sommes là dans la même zone, mais un peu plus au sud et surtout à l'écart de la RN2, en bordure du lac Albert. A signaler enfin, Pierre, que d'autres combats ont eu lieu ce samedi, encore plus au sud de la province du Nord Kivu, dans les territoires de Masisi et de Walikale.
Vincent Dublanche, combat acharné alors que les efforts diplomatiques peinent toujours à produire des résultats. Il y a une semaine, l'échec du sommet présidentiel tripartite de Luanda illustrait les désaccords profonds entre les parties prenantes. Divergence qui risque de s'installer dans la durée alors que vendredi, le président congolais Félix Tshisekedi a de nouveau martelé qu'il était hors de question d'ouvrir des négociations directes avec les rebelles du M23, organisation toujours considérée comme terroriste par Kinshasa. Problème, le Rwanda, soutien officieux de la milice, conditionne tout accord au lancement de ces pourparlers. Retour sur cette impasse diplomatique avec Passion Ligaudi.
Le M23, par la voix de son chef politique, Bertrand Bisimwa, persiste à demander un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Le mouvement affirme vouloir aborder les causes profondes du conflit, rejetant même catégoriquement toute intégration de ses revendications dans le cadre du processus de Nairobi qui rassemble divers groupes armés locaux et étrangers opérant en RDC. Pour le M23, un tel forum diluerait ses revendications spécifiques. Bertrand Bisimwa va plus loin. Il souligne, je cite, « Ce n'est pas aux groupes armés de gérer ces questions, mais au gouvernement, et refuse également l'éventualité de négociations qui se limiterait à des arrangements sur des postes ou des grades. » Kinshasa, de son côté, maintient une position ferme. Pas question d'accepter un dialogue direct avec le groupe rebelle. Il n'est qu'un instrument au service du Rwanda. De son côté, la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, exige la démobilisation immédiate et définitive de tous les membres de groupes armés et appelle à la reprise des pourparlers dans le cadre du sommet tripartite de Luanda entre la RDC, le Rwanda et les facilitateurs angolais. Passion Ligaudi, Kinshasa, RFI.
Et dans ce contexte, le président du Congo Brazzaville a réitéré son soutien aux efforts déployés par le médiateur angolais pour parvenir à un cessez-le-feu. Denis Sassou Nguesso, qui recevait hier Félix Tshisekedi, entretien largement consacré au conflit dans l'est de la RDC, selon les participants. L'hôte congolais, qui a une nouvelle fois appelé les belligérants à poursuivre et privilégier des négociations qualifiées, je cite, de moyens par excellence de résolution des conflits. RFI, il est 6h34 à Libreville, la capitale gabonaise, qu'on puisse se réapproprier les noctambules ce week-end, premier week-end, sans couvre-feu depuis le coup d'État du 30 août qui avait renversé Ali Bongo. Couvre-feu réaménagé de nombreuses fois pour éviter la chute de l'économie nocturne, mais jamais totalement levé. La semaine dernière encore, l'arrestation de contrevenants qui avaient ensuite eu le crâne rasé avait provoqué une vague de mécontentement. Alors ce samedi, l'ambiance était à la légèreté dans les rues du pays. Reportage Yves-Laurent Goma.
Derrière l'Assemblée nationale, coin par excellence pour boire et manger moins cher, notamment le poisson braisé. La nuit est déjà très avancée, mais tous les box affichent complet.
C'est la joie pour nous, on boit comme vous voyez là, nous sommes libres maintenant.
Je me sentais pas enchaîné, mais ça permet un peu de s'épargner.
On vous met la sauce sur le poisson, bien, hein? On met quoi?
Derrière son barbecue, Roger, alias Roger Poisson, ne chante pas.
Il y avait vraiment souffert pendant le couvre-feu. On rentrait tôt et bon, ça ne donnait pas. On prie que, comme on a retiré le couvre-feu, on aurait quand même la grâce.
Au quartier, lui, connu pour ses bars et restaurants, ses noctambules se délectent la musique d'un orchestre dans un club feutré.
Les Gabonais étaient fatigués de ne plus pouvoir rester tard le soir et profiter de la nuit, de sa douceur, de son charme. On réapprend à vivre, enfin.
Le patron qui préfère l'anonymat espère un nouveau départ pour les affaires.
C'est une bonne affaire pour l'instant parce que nous perdions à l'époque environ 45% de notre chiffre d'affaires chaque jour.
Le couvre-feu est certes levé, les Libreville-lois demandent cependant aux militaires au pouvoir de maintenir la pression contre les braqueurs. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Le Gabon où les avocats de Sylvie et Nourdine Bongo maintiennent leurs accusations de torture à l'encontre du système pénitentiaire. Ils répondaient ainsi aux dénégations de la justice gabonaise alors que l'ex-première dame et le fils d'Ali Bongo sont détenus depuis le coup d'état de 2023. Des avocats qui ont pu visiter leurs clients pour la première fois jeudi dernier. Autre démenti cette fois du côté de la diplomatie nigériane. Dans un communiqué, Abuja dénonce les accusations portées cette semaine par le Niger. Niamey accusait son voisin de services de base arrière pour la déstabilisation du pays en complicité avec des puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime réfugiés sur place. Après la convocation d'une représentante de l'ambassade du Nigeria à Niamey, le Nigeria a donc fini par rejeter ces accusations dans un communiqué. Les précisions sont signées Wally Diallo.
Le gouvernement du Nigeria est très inquiet et a affirmé fermement qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises dans le nord du pays, se préparant à déstabiliser le gouvernement du Niger. Le porte-parole du ministère a ajouté que ces allégations sont sans fondement et doivent être rejetées dans leur intégralité. La polémique avait débuté le week-end dernier lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a lu un communiqué à la télévision nationale. Dans ce communiqué, il accusait donc le Nigeria de vouloir déstabiliser le pays ainsi que de participer à un complot avec l'aide d'une puissance étrangère, sans pour autant mentionner explicitement la France. Ces tensions interviennent alors que le pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le Bénin en longeant la frontière du Nigeria a été sabotée 3 fois en moins de 2 semaines par des hommes armés que Niamey accuse de venir du Nigeria. Des accusations également démenties dans le communiqué. Pour le Nigeria, cette attaque serait l'œuvre du groupe terroriste Lukurawa. Les relations entre les deux pays se sont tendues suite au coup d'état de 2023, la création de l'AES et l'annonce de sa sortie de la CEDEAO.
Le Nigeria, endeuillé par 2 mouvements de foule hier, l'un s'est déroulé dans la capitale Abuja et a fait au moins 10 de victimes aux abords d'une église catholique lors d'une distribution de nourriture. L'autre a eu lieu dans le sud du pays, encore une fois lors d'une distribution de riz. Aucun bilan officiel, mais les autorités locales parlent de plusieurs morts. Tchad, en bref, et Mahamat Idriss Déby Itno est officiellement le 2e maréchal de l'histoire du pays. Le président officiellement élevé à ce rang honorifique hier lors d'une cérémonie à N'Djamena. Il marche ainsi sur les pas de son père qui avait inauguré la fonction. Reportage lors de cette cérémonie à suivre dans le prochain journal. Ce sera à 6h30, temps universel. Le cessez-le-feu et la négociation, seule voie possible au Soudan. Appel lancé par Emmanuel Macron depuis la capitale éthiopienne où il terminait hier une mini-tournée dans la corne de l'Afrique. Le président français s'est entretenu avec le premier ministre Abiy Ahmed, rencontre à l'issue de laquelle il a demandé aux belligérants soudanais de déposer les armes et aux acteurs régionaux de s'impliquer pour une paix durable. RFI, il est 6h39 à Paris, la capitale française, où a eu lieu vendredi dernier une vente aux enchères très polémique, celle de la récade du roi Béhanzin, sorte de sceptre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume du Dahomey, offert aux troupes coloniales à la fin du 19e siècle, pillé selon les versions, un trésor retiré à la dernière minute du catalogue à la demande, selon les informations de RFI, des autorités béninoises.
Selon des sources officielles, c'est bien la présidence béninoise qui a réclamé avec succès que la récade soit retirée des enchères parisiennes. La vente de l'attribut royal était annoncée ce vendredi après-midi à l'hôtel Drouot, mais l'événement suscitait des remous. Le matin même, ce vendredi, sur RFI, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation d'art Zinsou, s'en émeut. Car selon elle, la récade en question n'a pas été offerte aux troupes coloniales, mais bien pillée, et devrait donc être restituée au Bénin au même titre qu'une vingtaine d'œuvres rendues par la France en 2021. Juste avant la vente, la présidence béninoise réagit. Son chargé de mission sollicite en urgence l'appui du service des musées de France. Dans la foulée, la maison de vente Millon reçoit un appel du ministère français de la Culture lui demandant de retirer la récade de la vente. Ils n'ont pas autorité pour le faire, mais c'est de la diplomatie, commente un cadre du cabinet Millon. C'est la dernière vente de l'année, nous n'avons pas voulu aller au bras de fer, explique-t-il. Avec l'accord du propriétaire, dont l'identité n'est pas publique, l'objet est donc retiré du catalogue, mais il est toujours à vendre, précise cette même source. Le Bénin pourrait ainsi décider de se porter acquéreur ou de négocier avec Paris un mécanisme de restitution.
Les précisions de Florence Maurice. Allez, puis un coup de projecteur sur une discipline qui prend de l'ampleur ces dernières années. Ce sport, ce sont les fléchettes, déjà très populaires au Royaume-Uni et qui attirent de plus en plus l'intérêt des diffuseurs internationaux. En ce moment, à Londres, se déroulent justement les championnats du monde 2025 et il y avait jusqu'à vendredi après-midi un athlète sud-africain dans la compétition, Cameron Carolissen. En quelques jours à peine, l'unique représentant du continent africain est devenu l'une des mascottes du public britannique et même s'il a subi une courte défaite contre un adversaire classé 167 places au-dessus de lui au classement mondial, Carolissen espère que sa participation pourra stimuler le développement de la discipline en Afrique. Les précisions depuis Londres de Sarah Menaille.
C'est bien sur l'air de Waka Waka, l'hymne de la Coupe du Monde de foot 2010, que le public d'Alexandra Palace, ici au nord de Londres, a accueilli Cameron Carolissen. Originaire du Cap, le Sud-Africain surnommé le Javelot, s'est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour ces championnats du monde, sortant en septembre dernier en tête d'un groupe de 105 joueurs africains réunis à Nairobi. Il attribue aujourd'hui une grande partie de la progression de ce sport sur le continent à son compatriote, l'ancien joueur sud-africain Devon Peterson, qui a fondé l'African Dart Group. Alors à 28 ans, Carolissen espère à son tour inspirer la nouvelle génération.
J'espère que ça ouvrira les yeux aux garçons de mon pays. J'espère qu'ils auront une vue d'ensemble et qu'ils comprendront l'objectif du développement des fléchettes en Afrique. Je suis heureux de pouvoir être ici, de représenter non seulement l'Afrique du Sud, mais l'Afrique dans son ensemble. Maintenant, je peux rentrer chez moi en souriant, jouer ici est le rêve de tout joueur de fléchettes. Je suis content de ma performance. Je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi pour retrouver ma famille à Noël et profiter du soleil du Cap.
L'objectif désormais pour Cameron Carolissen, revenir ici à Londres dans 4 ans pour les prochains championnats du monde. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite Julien Coquel-Rohem pour la suite d'RFI Matin.
Merci Pierre Baudias. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans 17 minutes. Et la Syrie à la une, les rebelles HTS au pouvoir depuis 2 semaines ont annoncé hier les noms des nouveaux ministres.